Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Kinect, de Fable 3, de la Minute Culturelle, hein, tant redoutée par tous les chroniqueurs, surtout aujourd'hui, j'ai l'impression, et James Bond, Bloodstone. Patrick nous fera un bilan de
ces nouvelles aventures.
Et je commence par accueillir mes chroniqueurs d'aujourd'hui, et on commence avec une petite nouvelle dans l'équipe.
Oui.
Hélène Chevalier de France Inter, bonjour Hélène.
Bonjour à tous.
Joël Métro de 20 minutes, c'est plus les mêmes place.
Bonjour.
Et Patrick Elio de RockGamer.fr. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et Clément est absent, il n'est même pas malade, il est en vacances, cette feignasse. D'ailleurs, on commencera, on va pas commencer par lui parce qu'il n'est pas là, mais on va commencer par toi du coup Patrick.
Voilà, c'est très déstabilisant, normalement j'ai une news avant moi pour me préparer.
La des news films,
d'aujourd'hui.
Des films,
exactement.
Voilà.
On va parler cinéma. C'est vrai que c'est un peu une habitude. La dernière fois, j'avais ouvert sur une news sur Retour à le futur. Ça date un petit peu maintenant.
Oui.
Une annonce importante à cette semaine pour tous les cinéphiles, qui possèdent une PS3, puisque Sony vient de mettre à disposition sur la console le service Mubi. Alors Mubi, qu'est-ce que c'est? C'est un système de VOD, de vidéo donc à la demande.
Qui existe déjà par ailleurs.
Exactement, qui existe déjà sur Internet. Et qui dont la particularité de donner accès à des films différents des blockbusters qu'on a sur les systèmes de VOD en général. Là, c'est plutôt un catalogue qui est orienté films indépendants, grands classiques ou cinéma du monde. Donc c'est plutôt intéressant. On a un catalogue, je crois, d'un peu plus de 300 films qui sont disponibles déjà sur le site.
C'est pas génial pour l'instant, mais ça s'améliore.
Ça avance. Dedans, on a du Bergman, du Godard, du Chaplin, Varda, Gus Van Sant, etc. Donc c'est vraiment pour les cinéphiles qui ont envie de retrouver parfois des films qu'on ne voit pas en vidéo, qui ne sont pas disponibles autrement. Donc ça donne accès à des perles un peu oubliées. Donc voilà, le service, donc plusieurs façons de consommer dessus. On a un abonnement mensuel, je reprends mes fiches là, un abonnement mensuel de à peu près 13€, 12,99€ par mois, où là on a un accès à tout le catalogue. Et puis après, on peut prendre les films, un par un, voilà, comme ça. Donc,
en VOD classique.
Exactement, 3,59€ le film et moins d'1€ pour les courts-métrages. Alors, ce qui est intéressant aussi sur ce site, c'est qu'il a un vrai aspect communautaire où, en fait, on peut, noter les films, commenter, etc., passer à ses contacts un film qu'on a bien aimé. Donc voilà, c'est plutôt rigolo et ça vient de sortir là sur le PSN.
Alors Joël, toi tu vas parler de quelque chose que nous n'avons pas vu et pour cause.
Et qu'on n'a pas vu mais qu'on va voir très vite.
Et qu'on a envie de voir.
On va voir très vite. Il s'agit en fait du trailer de L.A. Noire. Alors pour résumer un peu, L.A. Noire c'est le prochain jeu de Rockstar, chez Rockstar Games, et qui mettra en fait en scène le Los Angeles des années 1940. Alors, ça, on peut penser un peu à Mafia, j'espère qu'on fera un
peu... Ce sera peut-être enfin le Mafia, ouais, le vrai, ouais, Mafia de Rockstar.
Hein. Ça fait longtemps, voilà, qu'on entend parler de ce titre. Il me semble qu'il a été annoncé il y a déjà un petit moment.
C'est possible.
Je dis rien, mais il me semble, hein, que ça fait déjà un petit moment qu'on en parle.
Et donc, ce jeu, en fait, devrait mêler à la fois de l'action, et on va incarner quelqu'un qui va faire mener pas mal d'enquêtes, en fait, à travers un monde, semble-t-il, assez ouvert. Bon, c'est un peu la marque de
Rockstar. Donc, pour ceux qui écoutent Silence on joue, c'est aujourd'hui, donc si vous ruez-vous. Alors, à savoir que les grandes sorties de trailers de Rockstar sont souvent très très dangereuses, hein, parce que généralement, au moment où le trailer est mis en ligne, c'est un peu mission impossible d'y avoir accès. On peut se souvenir que le jour du premier trailer de GTA 4, ça a été les services étaient complètement sous l'eau, saturés. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion que le Rickroll est apparu sur Internet, si vous vous en souvenez.
Ouais, ouais,
le fait de vous renvoyer vers les vidéos de Rick Astley. Bref, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on n'a vu aucune image de L.A. Noire. Bah, on ne sait pas du tout à quoi ça va.
Juste l'image, en fait, d'un type avec qui a un borsalino, l'espèce de par-dessus, et qui tient dans sa main, qui sort derrière son par-dessus, un flingue. Bon.
Des chiffres de l'IDAT.
Qui ont passionné Patrick.
Voilà, qui ont passionné Patrick.
Je suis tout oui.
50,4 milliards d'euros, c'est le poids du marché du jeu vidéo cette année, selon l'IDAT, hein, que tout le monde connaît, l'Institut de l'Audiovisuel et des Télécommunications en Europe. Un marché tiré par les jeux en ligne et la téléphonie mobile. En 2014, il devrait dépasser les 70 milliards d'euros et peut-être
on
enfin
était,
dépasser
on était
cinéma.
À combien là pour revenir le premier chiffre,
50,4 milliards.
Sur 2009.
Sur 2010.
Sur 2010, jusqu'ici.
Ben oui.
Ah oui.
Oui, c'est une estimation.
Ah oui, c'est une estimation. On est encore sur l'estimation de ce que va être, voilà, 2010. Et par les jeux en ligne.
C'est... Non, c'est...
C'est tiré par les jeux en ligne.
Grâce aux jeux en ligne et à la téléphonie mobile.
D'accord.
Qu'on arrive
ah, oui, oui.
à 50,4 milliards.
D'accord. Donc, en fait, on va encore avoir enfin des reportages télé qui vont dire du bien du jeu vidéo. Ça n'arrive,
bien sûr.
Ça n'arrive que quand il y a des bons chiffres et avec des milliards d'euros dedans.
Mais
en
peut-être
fait.
Que le lendemain, on aura un sujet sur l'addiction.
Peut-être. Qui sait.
Avec de la chance.
Avec un peu de chance, on aura un sujet sur l'addiction. Le com des coms de la semaine dernière. Et on commence avec un petit rectificatif sur une connerie qu'avait sorti Clément. Hein, il n'est pas là.
Son genre, voyons.
C'est Sébastien qui relève la chose et qui dit, contrairement à ce que dit Clément, Obsidian n'a pas été racheté par Bethesda. Leur prochain jeu, c'est d'ailleurs Dungeon Siege 3 pour Square Enix. Et Clément a quand même répondu. Clairement, il a confondu avec le cran d'au-dessus. C'est ZeniMax Media qui possède Bethesda et ID Software qui fait Rage. Voilà. Monsieur Patator qui parle de Fallout. Mais oui, c'est
bien,
des pseudos, hein, dans les forums. Qui parle de Fallout New Vegas et qui est complètement d'accord avec vous. Une aventure extraordinaire, largement améliorée par rapport à Fallout 3. Les quêtes annexes sont bien développées. Il faudra faire des choix un peu déchirants pour clore une quête. Le jeu est effectivement servi par une série de bugs de très très haut vol. Et il donne quelques conseils pour ceux qui vont commencer une partie. Passez en mode difficile au moins et baladez-vous avec des compagnons pour faire le gros du taf. Activez le mode hardcore dès le début. Clément nous en avait parlé, c'est pour rendre le jeu un peu plus réaliste. Et préférez la version PC qui a au moins l'avantage, comme l'avait dit Clément, je crois, d'être patché régulièrement, voire par les développeurs, voire même par la communauté, ça arrive. Skiski qui est très ému. Ça m'a fait tellement chaud au cœur que vous ayez parlé de Rock Band pour nous faire plaisir que je suis tout de suite venu le dire sur le forum. Et s'ensuit alors une discussion à laquelle je ne comprends rien parce que alors je ne suis pas Rock Band 3. Alors il parle des guitares qui seront à vendre. Il y a des modèles de guitares spéciales. Alors lui il précise pour ceux qui sont intéressés, la guitare c'est une Squier de Fender avec plein d'électronique embarqué dans le manche pour détecter la position des doigts, c'est ça.
C'est important.
Sortira en mars 2011, si tout va bien, et coûtera $280. Oui, parce que aucune date européenne année pour l'instant
sorti.
Donc
280 euros.
Minimum. Minimum.
La conversion directe.
Minimum. Voilà. Et il y a toute une discussion sur Rock Band Guitar Hero, mais bon, moi ouais. je passe un petit peu à côté. Et enfin, Le Tyran qui revient sur New Vegas et qui a fait un très très long post. Je vous conseille d'aller le lire. Il est assez intéressant. Et qui dit à un moment, je peux pas lire tout son argumentaire. Enfin, un jeu de rôle renouant avec l'idée que la baston n'est qu'une approche parmi d'autres, une brique de game design que l'on doit pouvoir substituer par une approche différente. Que cela soit dit, nous avons ici affaire à un jeu où jouer un personnage inapte au combat est une option tout à fait envisageable. Parmi tous les jeux reposant sur cette idée que l'intelligence, le charisme ou encore la discrétion sont des compétences primordiales, on peut même dire que New Vegas constitue une sorte d'aboutissement. Et certes, il était possible de finir Fallout 2 sans jamais tirer un seul coup de feu, mais l'ampleur ici est tout autre. Voilà, il dit qu'on peut vraiment faire ces choix-là. C'est vrai que, d'après ce que j'ai compris, je n'ai toujours pas commencé, mais faire un mode bourrin qui tire partout, c'est presque peut-être pas profiter de ce que propose le jeu en entier.
Personnellement, je continue à y jouer, ça m'intéresse pas vraiment, quoi. Voilà,
le mode bourrin,
pas le jeu, je le trouve formidable.
Alors pour commencer, parce qu'on n'en avait pas parlé au moment de la sortie, on va écouter un test alors fait par quelqu'un d'autre, et c'est Chaka qui est aussi un auditeur qui intervient dans nos forums, qui est responsable du site jeudemerde.com dont je crois qu'on avait parlé ici, et qui nous parle, qui a fait un test vidéo de Medal of Honor. Alors la vidéo dure 12 minutes, je vous la conseille, elle est très très drôle, et on va écouter un petit passage.
Donc le but du jeu va être en fait de descendre des vilains talibans et d'ouvrir des portes. Car pendant tout le jeu, on va avoir l'occasion d'ouvrir plein de portes. Mais ce jeu aurait pu s'appeler autrement que Medal of Honor, il aurait pu en fait s'appeler Barbu contre Dépressif. Car en fait, la plupart des ennemis, j'ai beau jouer en difficile, ne veulent pas vraiment combattre, ils ont l'air vraiment très tristes et vous allez le voir pendant toute la durée du test, ils n'ont pas envie de combattre et donc ça rend le jeu vraiment très facile. Donc voilà, ici par exemple, je suis coincé contre une canette qui m'empêche de passer, à moins que ce soit un mur invisible. Bref, je suis obligé d'attendre mes copains pour avancer. Attendons. Donc ça c'est nos copains, ils prennent une drôle de position, ils sont tous barbus, histoire de bien s'infiltrer. Voilà, le script s'active et on y va, on fonce. Oh putain, il pleut de la merde. Ah oui, il pleut bien de la merde.
Voilà, c'est sur jeudemerde.com, c'est un test par Chaka qui n'apprécie pas. Je vous conseille, il y a un dessin qui tourne qui est très très drôle en ce moment sur le net sur les différences de game design dans les FPS entre 1993 et maintenant, et en fait ils font la map d'un niveau, et en fait il y a la map de, je pense que ça doit être Doom 2 ou machin, où tu vois toutes les pièces, la grande map d'un des niveaux de Doom 2, et tu vois une map d'aujourd'hui où tu as un couloir avec cutscene.
Ça calme.
Voilà, ça calme un petit peu. C'est vrai que par rapport à ces jeux à l'époque, on a encore des stalkers ou des choses comme ça qui relèvent le niveau. C'est sorti quand? C'est sorti hier, si je ne m'abuse. Ça s'appelle Kinect. C'est donc le système de Microsoft de reconnaissance de mouvement. Vous l'avez essayé. Allez, on commence avec toi, Joël. Je décide. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce petit appareil?
La
question est difficile.
J'ai testé dans les conditions réelles, quoi, c'est-à-dire chez moi, dans un petit. Alors, j'habite pas un palace, loin de là.
Pourquoi tu me vois comme ça? Moi non plus.
Et effectivement, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est quand même très très gourmand en place, quoi. C'est-à-dire, il faut vraiment. J'ai dû vraiment réaménager complètement.
T'as quelle place là pour jouer chez toi concrètement? quel recul par rapport au.
Il faut au moins 1m80 pour y jouer dans les conditions optimales.
C'est ce qu'il se disait,
je ne les ai pas.
Si t'es deux,
voilà, si t'es deux, c'est
2m50
ou 40, voilà.
Et moi,
je les ai pas. Je les ai pas.
Il va jouer tout seul.
Voilà, donc, non, je les ai pas. Regarde, pas comme ça. Et du coup, effectivement, ça, c'était un peu gênant. Deuxième chose, prévenez vos voisins aussi. Parce que, non, mais prenez vos voisins du dessous. Parce que, effectivement, la plupart des jeux qui sont proposés, qui sont des jeux, enfin, voilà, très casual, voilà, c'est des jeux de sport, de course, bah, il faut quand même taper du pied par terre sur le sol. Et je vous assure, je pense pas que les, je pense pas que les voisins apprécient.
Donc on ne peut pas jouer à Kinect à 1h du matin.
Non.
Moi ma voisine est montée en fait. Pour me demander si j'étais en train de déménager.
Ah oui, parce qu'elle est montée non pas au moment où tu jouais, mais au moment où tu déplaçais tes meubles pour éventuellement pouvoir jouer.
En fait, c'est-à-dire que j'ai commencé à les déplacer une première fois et je me suis aperçue que je n'avais pas suffisamment de recul, donc j'ai dû les redéplacer à nouveau à plusieurs reprises.
Et en plus, on joue à Tetris avec ses meubles, c'est ça. Pour finalement.
C'est amuse-toi à trouver de la place entre l'armoire, la table du séjour, voilà. Et j'ai la chance d'avoir un séjour plutôt assez grand. Qui fait plus de 20 mètres carrés, je crois. Et j'avais pas la place encore suffisamment. Parce que j'ai des meubles. Bizarrement, c'est ça le truc. Tu peux avoir un grand séjour et tu peux avoir aussi des meubles. Et là, il faut pas avoir de meubles.
Si aussi tu joues la marginale, c'est avoir des meubles. Quelle drôle
d'idée. Oui, je sais pas pourquoi. J'ai mis un canapé. Comme une idiote, j'ai mis un canapé devant ma télé.
Ah oui. Non, ça...
Et une table basse.
Et donc elle est montée, elle s'inquiétait. D'accord.
Elle se demandait si je déménageais. Voilà, c'est tout.
Et sinon, pour les jeux qui est dessus, ce qui est sorti pour l'instant, c'est pas vraiment orienté pour les gamers, c'est effectivement, comme je le disais, c'est des jeux de course. C'est un peu c'est un peu l'équivalent quand même de ce qu'on trouve actuellement sur le PS3 Move ou sur la Wii. Enfin, je sais pas, Kinect Sport, Kinect Adventures. J'ai deux faibles. Alors, vous allez
rigoler. Deux quoi?
Deux jeux, deux faibles. Enfin, deux, un faible pour deux jeux.
Ah oui, un faible. Ah. D'accord, oui. On a eu peur. J'ai deux faibles, je comprenais pas.
Non, en fait, je pense que le marché de la Kinect pourrait être entraîné par ces deux jeux. Notamment, le jeu de fitness de Ubisoft, que je trouve plutôt pas mal. Et il faut se rappeler aussi que la Wii avait été Your Shape. Il faut se rappeler que la Wii avait notamment été, les ventes de la Wii avaient notamment été augmentées par Wii Fit, c'était la troisième meilleure vente sur Wii. Et puis le jeu Kinect Animals, que je trouve plutôt sympa. Ouais. Voilà. Bon, c'est un peu un iPad,
mais avec des tigres.
Mais tu as bien scotché
des chatons tigres.
J'avoue, ouais, j'ai bien scotché dessus.
D'accord.
Bon, c'est un peu c'est pour les enfants, c'est clair, mais je pense que c'est plutôt sympa, quoi, plutôt bien.
Et donc, toi, ton expérience est peut-être moins reluisante, plus négative, peut-être?
Non, mais c'est parce que... Alors, il y a un potentiel, ça, c'est sûr. Il y a une innovation, on est tous d'accord
là-dessus.
En termes
parce que je me rappelle que sur la Move, ça a été, quand PlayStation Move est sorti, ça a été une de nos gros points positifs. C'était, en termes techniques, le
la
Move...
La précision, et c'est extrême. Alors, c'est ça le problème, c'est que Kinect, c'est pas du tout... justement, les jeux qui sont proposés, les jeux qui sont avec Kinect, alors Kinect Adventure et Sport... forcément, quand on a fait avant un jeu avec le Move, par exemple le jeu de ping-pong, qui est assez impressionnant, où on peut lifter des choses comme ça.
Mais est-ce qu'on peut vraiment les comparer? C'est ça la question.
Je pense qu'il ne faut pas les comparer parce que c'est pas du tout... Comment tu veux avoir une précision avec juste un bras qui fait ça? Ouais. C'est pas possible, je ne vois pas comment c'est possible.
Est-ce que techniquement, il y a quelque chose d'impressionnant?
Je veux dire, quand on était tous petits, je pense qu'on était tous en train de rêver, effectivement, à manipuler un écran juste avec la main. Et ça marche.
Non, mais
c'est fascinant.
Agréable, c'est pouvoir. Non, mais c'est vraiment tout con. C'est aussi de pouvoir naviguer dans l'interface avec les mains. Je trouve ça assez séduisant. De pouvoir aussi, il y a Zune qui propose des films. On peut avancer, faire des avances rapides dans les films avec la main. Je trouve ça assez excellent.
Oui, mais ça lag. Dans les jeux, je parle après quand on joue par exemple Kinect Adventures là, et la fameuse descente en rafting,
il y a un petit temps de décalage.
Alors tu sautes et puis tu vois ton bateau sauter mais 3 secondes après. Alors Microsoft dit bah oui mais on va s'habituer à ça. Non, je suis désolée, moi je vais pas m'habituer à sauter 3 ou 4 secondes avant, j'ai envie d'être dans le truc. Le but de Kinect, c'est d'être complètement immergé, j'ai pas envie de sauter, d'avoir
d'une manière générale. Le fait de ne pas laguer est d'une certaine importance. Dès qu'on arrive sur les jeux gamers, ce sera...
T'as l'impression, en fait, qu'on te dit que oui, alors ça lag parce que parfois, peut-être qu'il a du mal à calculer tout. Alors, est-ce que justement, quand on va arriver dans des jeux très, très compliqués, ce qu'on attend tous, des jeux où vraiment, pour les gamers, moi, j'ai peur, effectivement, que là, on le voit encore plus, ce délai.
Moi, je crois assez au système hybride qui avait été plus ou moins annoncé par Microsoft, où on aura la manette classique pour jouer, mais des options supplémentaires avec des mouvements en levant, en jouant. Ou je pense qu'il y a vraiment une complémentarité qui sera intéressante
à mettre avec le déménagement des meubles, c'est-à-dire qu'on devra jouer avec sa manette mais sans le canapé.
Ça dépend justement, qu'à mon avis on peut peut-être jouer sur son canapé avec des mouvements en plus pour lancer une grenade.
Et pour l'instant on ne peut pas jouer assis.
Non.
On peut naviguer assis, on peut.
Ah oui, naviguer, oui.
Naviguer
mais
dans
jouer,
l'interface
ouais,
assis.
Oui,
ouais,
bien
peut.
Sûr. Ouais.
Ah, il y a aussi d'autres fonctionnalités qui, non, mais j'ai pensé qui me plaisent bien, outre les jeux. Mm-hmm. C'est aussi le vidéo chat qui est vraiment sympa avec la caméra ouais, qui suit effectivement la personne quand elle se déplace.
Tu as testé le vidéo chat.
Ah, j'ai testé le vidéo chat. Voilà, on n'a pas besoin de casque, effectivement, pas besoin de casque, de micro. C'est Kinect, donc l'accessoire qui se branche à la console qui retransmet les propos. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal. Ce qui manque encore, c'est la reconnaissance vocale qui n'a pas été mise en place en France.
Qui va arriver dans plusieurs mois, je crois.
Qui arrive en printemps 2011 parce qu'ils sont en train de s'embêter, en fait. En fait, ils sont en train de développer les différents accents français.
Mais pour l'anglais, il y a l'anglais d'Angleterre, il y a celui du Canada, il y a celui des États-Unis, celui de l'Australie. Enfin, voilà, il y a plusieurs accents qui sont déjà implémentés. Hein, ouais. Donc, Kinect, 150 €, je crois, en boutique.
39,99.
150 € l'accessoire seul, donc Kinect. Et puis
qui est quand même un peu comme à l'époque avec la Wiimote, c'est quand même un bel outil technologique. Hein, parce que j'ai vu qui marche aussi dans le noir complet.
C'est pas comme la caméra de Sony où il faut absolument avoir un petit peu de lumière quand même pour pouvoir jouer. Là, effectivement, normalement, ça marche dans le noir complet.
Et je vous conseille d'ailleurs une vidéo qui est sur YouTube, il faudra que je la mette sur les forums de Silence en Joue, où on voit quelqu'un qui filme sa pièce complètement dans le noir avec la Kinect allumée et qui filme avec une lunette infrarouge. Donc la pièce est toute verte et on voit que la pièce est parsemée de points verts, mais vraiment parsemée de petits points verts écartés d'à peine quelques centimètres les uns des autres. Ça fait qu'il y a des milliers de points verts sur sa pièce. C'est un peu flippant quand on la voit.
C'est quoi,
et en fait, c'est les espèces de rayons infrarouges que balance
la Kinect caméra.
pour pouvoir repérer les mouvements dans le noir, en fait. Et c'est très impressionnant. Enfin, franchement, c'est à voir. Je mettrai le lien sur les forums de Silence on Joue. Donc voilà, Kinect, on en reparlera peut-être à l'occasion de vrais jeux, hein, parce que bon, Kinect Animals...
Si, il y a le jeu développé par Harmonix, là, le jeu de danse. Alors, je ne suis pas très jeu de danse, hein, mais il marche bien.
Il m'a rien.
J'ai essayé un petit peu, mais moi, j'ai pas très doué.
Pour ça, je trouve que
la seule réserve que je fais, c'est que je trouve que lorsque tu fais les bons mouvements, donc ça s'appelle Dance Central, lorsque tu fais les bons mouvements, tu vois pas, t'as juste un cercle vert, qui s'allume autour du personnage, donc tu t'as pas vraiment l'impression de faire les bons mouvements, quoi. T'es pas vraiment récompensé.
C'est le Child of Eden, je crois.
Moi,
il me fait bien envie de Mizuguchi.
The great and powerful king of Albion is dead. To one son, he leaves the crown. This is my Albion. Its people will do as I say, or they will die. To the other son, he leaves a life of adventure. Flawless! Who could resist you? One brother's tyranny leads to starvation and misery. Albion needs nothing less than a revolution. While from the other brother's choices, the quest to save Albion begins.
Fable 3, le nouveau, encore, le troisième projet de Peter Molineux sur cette licence. Donc on est plus sur la suite directe du deuxième. Hélène, donc tu as...
50 ans après, je crois.
50 ans après.
La fin du 2.
C'est-à-dire que le père du personnage est un...
A eu deux enfants. Il est mort. Deux enfants, et dont l'aîné est donc à la tête du royaume.
Et il n'est pas un gentil.
Il est très méchant.
Il est très méchant, c'est un tyran. Et il va falloir fomenter une révolution. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce troisième fable?
Juste pour rappeler, donc la série des fables, c'est vraiment une série donc de jeux de rôle qui sont.
On est dans le jeu de rôle occidental, quand
jeu
même.
Jeu de rôle, d'aventure, c'est quand même mélangé. Ouais. Je le classerais pas en jeu de rôle. Mais bon.
Et qui souvent donc créé par Peter Molineux à la tête des studios Lionhead. Et où le joueur est systématiquement, enfin, est souvent donc invité dans cette série, invité à faire des choix qui seront décisifs décisif en termes de conséquences, enfin sur le monde et les gens qui l'entourent. Et donc le dernier fable 3, enfin donc échappe pas à cette règle.
On reste oui dans le même cahier des charges en fait.
Absolument. Mmh. Donc avec un héros ou une héroïne, puisque oui. Donc on peut, ce qui est agréable, c'est qu'on peut donc choisir.
On peut jouer le frère ou la sœur du roi du.
Enfin le fils ou la fille du roi tyran.
Non.
Non, c'est le frère
non,
ou
le frère, ou la sœur, ou la sœur du roi tyran.
Du roi tyran qui s'appelle donc Logan, ouais. et dont on s'échappe au début du château. En fait, on s'échappe de Logan et on va être invité à mener une rébellion, une révolution pour renverser ce tyran. Et ça, c'est vraiment la première partie du jeu parce que le jeu est construit vraiment en deux parties différentes. Donc cette partie qui est assez proche en fait du système de Fable 2. Donc on est vraiment pas
Fable 2 qui était, on en avait parlé ici à l'époque, qui était un titre très réussi, surtout par rapport au premier qui était plutôt inabouti. Enfin, il manquait vraiment plein de choses, surtout par rapport aux premières promesses de Peter Molyneux. Donc c'était pas vraiment, ça remplissait pas vraiment toutes les promesses. Le Fable 2 était quelque chose de plus abouti, avec des vrais choix, avec un vrai changement de l'environnement en fonction des actions du joueur, le fait de pouvoir se marier, fonder une famille. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient vraiment présentes, et on retrouve tous ces éléments dans Fable 3.
Absolument, on les retrouve tous. Ce qui a changé, c'est l'environnement, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une espèce de médiéval fantastique, mais plutôt on est passé à l'ère industrielle, donc il y a plus, je sais pas moi, de cheminées qui fument, il y a un petit côté un peu steampunk même parfois, et cet environnement qui est toujours très marqué par son humour anglais, british, auquel je suis très sensible, qui donne vraiment sa personnalité au jeu, quoi. Enfin, les personnages ont vraiment des trognes, ils ont des répliques et des dialogues assez
testé en version française. Alors, ou moi, anglaise, parce que moi c'est anglaise version que j'ai.
Ah bah écoute, moi c'était en français, donc j'ai pas écouté. Il y a John Cleese.
Mais est-ce qu'en français c'est bien?
Ça passe.
Parce qu'en anglais, c'est super.
Ah ouais.
Non, c'est souvent ça. Hein.
Mais oui, c'est pour ça que je ne sais pas si la version française est aussi bonne que la version anglaise.
Ça ne m'a pas plus marqué que ça, mais j'imagine que j'aurais bien préféré effectivement y jouer en anglais.
Donc,
On en était où
après cet anglais-français? C'est toi, tes impressions, tes premières impressions de jeu sur.
Alors au début, j'ai eu l'impression, j'avais pas rejoué, ça faisait plus d'un an,
deux
et demi,
ans.
Un an et demi. Oui, mais bon, j'ai mis un peu de temps à le finir. et j'ai eu l'impression de reprendre le 2 en fait. Au début, je me disais oh là là, c'est un peu graphiquement, ça ressemblait. Je trouvais que c'était très très proche. Et au final, en étant un peu plus attentif, je me suis aperçu quand même que c'était un peu mieux.
Ouais. Le début est un peu long à se mettre en place.
Ouais. Il y avait aussi,
je crois, une promesse d'une plus grande ampleur avec le côté gestion d'un royaume, etc., avec des conséquences sur le. Alors, est-ce que ça s'est tenu? Parce qu'il y avait, cette promesse sur le 3.
Ça, c'est la deuxième partie du jeu. C'est-à-dire qu'on se retrouve, bon, je veux pas trop spoiler, mais c'est vrai qu'on se retrouve souverain ou souveraine de ce royaume.
Et on prend des décisions, évidemment.
Et on prend des décisions parce qu'on a fait des promesses au cours de cette première partie de l'aventure. On a fait des promesses auprès de gens, par exemple des gitans, je sais plus, auprès d'un orphelin, enfin je sais plus exactement auprès de qui. On a fait pas mal de promesses. Et selon après qu'on les tienne ou pas, le monde va complètement changer en fait.
Enfin, physiquement en fait.
Physiquement.
Vrai,
par exemple, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est par exemple, j'ai le choix de construire un orphelinat. Ou une maison close.
Ah ouais. Joël,
qu'as-tu choisi? On se demande. Voilà.
Alors
t'es trop curieux. Il y a vraiment tout plein de choix à faire qui vont se répercuter.
Pas trop manichéen, justement, parce que c'était
un peu moins noir ou blanc que Fable 2, quand même, je trouve. C'est un petit peu plus vicieux. Dans le sens où tu réfléchis un peu plus, dans Fable 2, c'est vrai que c'était, c'est noir, très noir,
ouais,
ou
vrai.
Très blanc.
C'est vrai.
Là, c'est un peu plus vicieux, ça commence, dès le départ, dès le début du jeu.
Il y a le choix cornélien du début du jeu.
Est-ce que je tue mon petit ami ou ma petite amie, ou est-ce que je tue les trois habitants pauvres que je ne connais pas?
Et ça, tout de suite, ça a un impact sur la suite.
Il semble que ce soit un des problèmes du jeu, c'est que finalement la promesse que ces impacts aient une incidence sur l'entièreté du jeu, finalement le déroulement des événements n'est pas si différent d'un choix ou de l'autre.
J'ai demandé à Peter Molyneux sur justement le premier, parce que j'ai tué mon petit ami, qu'est-ce qui se passe si je ne le tue pas? Il m'a répondu qu'en fait, je recroise apparemment mon petit ami ou ma petite amie beaucoup plus tard dans le jeu et que, en fait, il a fait sa vie avec une autre fille et voilà.
Donc pas, pas forcément.
J'aurais dû le tuer.
Une belle leçon de vie encore.
Ouais. Et ce qu'il faut noter aussi dans le jeu, je pense, c'est que le jeu est très facile. Enfin, c'est un jeu qui est très très accessible. Il n'y a pas de challenge.
Fable 2 était déjà très très accessible. Hein. Si on contrôle à peu près ses sorts, les niveaux de ses sorts et tout ça. Enfin, franchement, il n'y a pas de trop de
difficultés. Les combats sont, je trouve, plus jolis, plus sympathiques. Moi, je préfère jouer...
Moi, je les ai trouvés plus confus.
C'est pas vrai.
Ah, je les trouve confus. Donc,
La possibilité de mélanger à la fois, soit tu choisis un peu l'épée ou un sort. Moi, je trouvais ça mieux, en fait. Alterner les trois en même temps, je trouvais ça bien, en fait.
D'accord. Moi, je trouvais qu'à l'écran, les combats étaient un peu fouillis, pas forcément le plus intéressant.
En revanche, il y a un truc très exaspérant, c'est l'histoire du... on a toujours notre chien, c'est très bien.
Qui sert un peu à rien, là.
Voilà. Alors le problème, c'est que il est comme dans Fable 2, c'est-à-dire qu'il nous aide à chercher des trésors par moment, et c'est un geste qui est, tu as compté, je crois, Joël, combien de fois il fait.
Non, mais je crois qu'il fait quatre gestes de. Il enfonce quatre fois la pelle dans la terre, voilà, c'est ça.
À chaque fois.
Voilà. Et c'est vrai que c'est un geste qui, c'est pénible en fait. Au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on le fait. Alors, on suit le chien à chaque fois. Voilà, il aboie, on le suit. Voilà, il a trouvé un trésor, c'est formidable. et vas-y que je te prends ma petite pelle. Et vas-y que et un coup et deux coups et trois coups et quatre coups. Et ça et c'est des centaines de fois, je pense, dans le jeu.
Et surtout, c'est pas hyper bien modélisé.
Et alors, c'est surtout que la pelle. Moi, j'aimerais une bonne fois pour toutes. Et je m'adresse
à Peter Molineux.
À Peter Molineux, est-ce que la pelle peut enfin aller dans la terre et pas à côté dans le vis? C'est-à-dire, le mec
c'est
il est là.
De style, Hélène.
Alors je ne suis pas sensible à l'effet de style, écoutez.
C'est-à-dire, le jeu est vraiment bourré d'humour. Quoi. C'est rare qu'il y ait, je trouve qu'il y a des jeux qui sont aussi.
Ils sont pas trop sérieux, quoi.
Non, qu'il y a des jeux aussi drôles.
Oui, puis c'est un jeu quand même assez intelligent. Bah, on n'est pas là, pardonnez-moi, mais comme des bourrins avec notre fusil et bah, là, c'est toujours le même scénario. Voilà. Là, il y a on a un peu des rebondissements. Bah, c'est un mélange. Moi, ça me plaît beaucoup parce que c'est un côté Sims, on en parlait, voilà, c'est ce côté, je peux aussi me marier avec un homme, une femme, fonder ma petite famille, après, bon, alors, c'est quelque chose que j'aime un peu moins, mais je peux avoir ma maison, je peux la décorer, voilà, il y a plein de choses à faire dans le jeu.
Non, c'est vrai.
Donc voilà, Fable 3, mais c'est une des grosses sorties de cette fin d'année, et en tout cas, pour ceux qui ont aimé le 2 déjà, c'est pratiquement obligatoire.
C'est
une bonne étape de découverte.
Après, il faut avoir du temps.
Il faut avoir du temps.
Le jeu
une
doit
trentaine
durer,
d'heures.
Ouais, un petit peu moins d'une trentaine d'heures en comptant les quêtes annexes. Ouais.
Eh bien, c'est Fable 3, 70€ sur Xbox 360, comme d'habitude. C'est toujours très cher. Bref, on va pas le dire à chaque fois, hein, quand même. On en était où? On en était à Monsieur Fall, qui n'est pas là, encore une fois, mais je pense que c'est, encore une fois, ça vient de nous, hein. Il va nous excuser, on passera un jour, on fera une émission que avec ses chroniques qu'on a ratées. Toutes nos excuses à Monsieur Fall. Il faudrait qu'il revienne nous voir, d'ailleurs.
Ça fait longtemps
qu'il n'est pas venu, Monsieur Fall. On arrive à ce moment que vous attendez tous, chers amis, la minute culturelle, oui. Alors, on commence, on n'a pas tenu, je crois qu'il y a des comptes qui traînent sur un forum.
J'avais vu ça, qu'il y avait un compte détaillé.
Il y avait un compte détaillé.
C'est flippant, d'ailleurs.
D'ailleurs, je crois que tu as un point, Joël, un ou deux depuis le début, je ne sais plus. Alors, on commence avec VNZ qui demande si je vais à Alamo Gordo, au Nouveau-Mexique, armé d'une pelle et que je creuse. Qu'ai-je des chances de trouver ?
Il va trouver des piles de jeux E.T. Atari 2600 enterrées dans le désert. J'ai essayé, j'y suis allé.
Et moi je dis bravo. Alors on t'accorde le point et il va trouver E.T. et Pac-Man.
Et Pac-Man, oui, qui était très mauvais.
Donc pour Atari 2600, enterré là par millions par Atari.
Il faut imaginer ce que sont devenus ces cartouches, hein, enterrées depuis 30 ans maintenant.
Ils avaient produit tellement de cartouches, et pour le cas de E.T., le jeu était si mauvais qu'une énorme quantité leur est restée sur les bras et qu'ils les ont enterrées dans une décharge locale.
Quel gâchis.
Cette histoire serait une des raisons du crash de l'industrie du jeu vidéo en 1983. Bravo, je sais que dire. Flamingo Flash qui nous pose la question dans Leisure Suite Larry 1. Une des scènes cultes du jeu apparaît quand Larry se fait traiter de « what a pervert » dans une épicerie. C'est une des phrases cultes de ce premier Leisure Suite Larry. Mais pourquoi il se fait traiter de pervers? C'était suite à quelle scène?
C'est pas quand il essaie d'acheter des préservatifs et que ça dérape. Y a...
C'est
ça?
Et oui, c'est ça! Mais quel talent! Quel talent!
Je vous le recommande, ce jeu, il est fabuleux.
Le joueur doit acheter des préservatifs avant de coucher avec une prostituée. Ouais. Il leur demande à l'épicier du coin et celui-ci lui demande de répondre à un questionnaire: taille, couleur, goût, matière plastique, etc.
Le préservatif acheté,
l'épicier répète alors à voix haute tout ce que le joueur a répondu. L'épicerie qui était vide se remplit alors de clients hurlant à Larry: what pervert! Kill Score 2600, c'est au cours des années 90. Un groupe finlandais est particulièrement réputé dans la scène des démos PC. Portant le nom de Future Crew, il crée des démos aussi fameuses que Unreal ou Second Reality. Donc vraiment dans les années 90, très connu. En 1995, quatre des membres de ce groupe fonderont un studio. Comment s'appelle ce studio apprécié des gens de Silence on Joue?
Pareil. En quelle année ça a été fondé?
En 95. Un groupe finlandais.
C'est pas les gens qui ont fait GTA, non? C'est pas lié à GTA ou DMA Design? Non, c'est pas ça.
Il s'agit de Remedy Entertainment, créé par les gens de Future Crew. Et en fait, deuxième question, dernière, de Killscore 2600. Remedy, d'ailleurs, est connu pour leur succès Max Payne, et pour ceux on les remerciera jusqu'à la fin des temps, surtout Max Payne et Max Payne 2, mais quel était le nom de leur premier jeu mettant notamment en scène Duke Nukem?
Mettant notamment Duke Nukem,
Patrick,
c'est pas un jeu de flipper, un jeu de flipper dont une des tables était Duke Nukem? Non,
non, je ne crois
Ball
pas.
Ball of Steel?
Non, c'est pas ça. Tu n'as pas fait
un grand chelem.
Non, il s'agit du formidable, selon qu'il score, du formidable Death Rally. Il y avait sans doute Duke Nukem jouable. Voilà, bon, une performance mémorable, quand même. De Patrick,
il rougit.
Non, ce n'est pas une question de la minute culturelle. Je ne vous demanderai pas.
Ah, c'est dommage.
Quel jeu.
C'était une bonne idée.
De quelle licence vient cette musique?
Bizarre.
Patrick, c'est donc le dernier jeu de la série James Bond qui ne correspond pas à un film.
Alors la situation est un peu bizarre en ce moment autour de l'univers de James Bond parce que au cinéma la licence est au point mort. Oui. Pour l'instant,
ils ont arrêté.
L'MGM est en banqueroute depuis quelques jours. Ils ont annoncé qu'ils étaient en banqueroute. Donc pour l'instant, les droits, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. On sait que ça reviendra parce que James Bond, c'est une poule aux œufs d'or, ça reviendra. Pour l'instant, on murmure peut-être 2012 pour le prochain film, mais bon, rien n'est moins sûr. En revanche, l'actualité, elle n'est pas dans les salles, elle est en jeu vidéo. Parce que c'est la première fois depuis, je crois, le tout début que James Bond est apparu en jeu vidéo, que l'on a droit en même temps à deux jeux. Deux jeux qui sortent en même temps sur la licence et qui sont différents. Donc on va pas faire ça tout de suite là, on va pas faire les deux jeux, on n'aura pas le temps et j'ai pas pu encore jouer à GoldenEye. Donc on verra ça peut-être la semaine prochaine.
Le deuxième étant le remake
de GoldenEye, on en reparlera.
GoldenEye de
N64. La semaine prochaine, je pense qu'il mérite de s'y pencher. On va commencer aujourd'hui par Bloodstone. Donc Bloodstone, c'est un scénario inédit qui a été écrit pour un jeu vidéo qui pourrait ressembler à ce que serait un éventuel film qui ne sortira pas pour l'instant. En tout cas, je crois que c'était écrit par un des auteurs de GoldenEye.
Demain ne meurt jamais et le monde ne suffit pas.
Oh exactement. My god. Ils auraient peut-être pu choisir quelqu'un d'autre.
Alors moi j'ai eu
des grands films, des grands films.
Alors, j'ai eu le plaisir moi de tester le jeu pour Eurogamer. Je crois que le test doit être en ligne. Je lui ai mis 6 sur 10. parce que voilà,
c'est honnête.
La note tombe, voilà,
je dis
6 sur 10. Alors donc, pour faire rapidement, on est sur du jeu d'action troisième personne, entrecoupé de scènes de course de voiture, course-poursuite. On peut dire que le jeu essaie de remplir assez bien le cahier des charges de
Daniel Craig.
James, voilà, exactement, de l'univers James Bond. C'est-à-dire qu'on retrouve tous les ingrédients qu'on connaît depuis tous les films, etc. On a donc des scènes d'action en troisième personne qui représentent la plupart du jeu.
C'est du shoot.
Alors troisième personne, on est vraiment sur les classiques, genre Vanquish ou Gears of War, mais bon, c'est difficile à comparer. Mais on est vraiment sur ce système de tir, on se cache et on avance. On a donc toujours parmi ces ingrédients, on a la musique, qui reprend avec le titre, le générique de début. Enfin, je sais pas.
Ah, il y a un générique au début.
Ah bah oui, il y a un générique exactement.
Et il y a la scène de pré-générique, donc.
Oui, la scène d'action. Mission, c'est respecté à la lettre. On sent que les développeurs ont vraiment voulu respecter à la lettre ces bizarres créations qui s'est collé à l'exercice, donc on les connaît bien ces gens-là parce que c'est eux qui avaient fait toutes les séries. On les connaît notamment pour leurs jeux de course. C'est eux qui avaient fait Blur, je crois, leur dernier en date. PGR, c'était eux. Donc les scènes d'action en voiture qui entrecoupent le jeu sont pas mal. C'est plutôt bien réalisé. Donc ça fonctionne assez bien à ce niveau-là. Et ce qui ressort du jeu, c'est qu'il est assez dynamique. Il y a un bon rythme, on avance bien, etc.
Et je pense qu'il va y avoir le mais qui va arriver, on est sur du positif, et il y a le gros mais.
Et donc on reste sur cette dynamique, il y a un bon rythme, mais le jeu, on respecte bien le Daniel Craig, le James Bond Daniel Craig, qui est assez physique, avec des prises au corps à corps, etc. Le mais, c'est que tous les ingrédients sont réunis pour respecter la recette Bond, mais il manque le petit truc en plus, qui fait que le jeu... En fait, si on lui retire la licence, il reste un jeu d'action troisième personne qui serait assez lambda, qui n'a
complètement impersonnel s'il n'y avait pas le James Bond.
Exactement. Fait. C'est trop scripté aussi. Comme tu disais tout à l'heure, ces jeux où on avance dans un couloir. Bon, là, on a ça. On a quelques fois.
On pourrait le retrouver sur jeu de merde alors.
Chacun sur jeu de merde teste surtout des FPS, mais on pourrait.
C'est sa spécialité. Donc ça, c'est vraiment scripté, linéaire. L'intelligence artificielle des persos, des ennemis, est pas, franchement, ils sont pas au taquet, on va dire. Donc, ce qui ressort vraiment, c'est ça, c'est ce rythme qui est bien géré. On s'amuse bien. Moi, j'ai apprécié le jeu. Je l'ai fini. C'était plutôt sympa, une bonne expérience. Mais il manque. Moi, je me pose toujours la question, réduire l'univers de James Bond à un jeu d'action bourrin, jeu de tir, c'est toujours un peu réducteur, je trouve.
Même dans les films, ça dit.
De plus en plus, aujourd'hui.
Ouais. Est-ce qu'il y a des Bond Girls ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait partie du cahier des charges qui est rempli.
parce que normalement, il y a le grand méchant.
Lui, il manque vraiment, je trouve qu'on le voit à peine. Alors que c'est quand même le facteur numéro un d'un Bond réussi. C'est le méchant.
Et le facteur numéro deux, c'est le bras droit du méchant. Il y a le bras droit du méchant.
Vaguement. Il y a des petits manquements comme ça qui font que.
Il y a des gadgets.
Non, pas trop non plus. En fait, si on a un gadget qui est assez lourd, je trouve, c'est qu'on a en fait un téléphone portable où, quand on l'active, on passe en vue un peu à la Batman, vous rappelez, une vision, on voit les éléments à faire, etc. Alors c'est rigolo, à part qu'on n'arrête pas de l'enclencher, on est obligé de le mettre en route pour voir où aller sur la suite ou détecter quelle action faire, etc. Donc ça devient plutôt poussif au bout d'un moment. Donc ça, c'est un peu dommage, voilà.
Ouais, pas forcément un jeu finalement à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre d'un jeu.
C'est ça. Donc ça reste une expérience agréable, c'est bien fait. Je trouve que les courses de voitures sont pas mal. Il y a une certaine difficulté quand on avance dans les niveaux, avec un côté un peu die and retry il faut aimer. C'est vrai. Assez dur, mais ça marche plutôt bien à ce niveau-là.
Il y a un petit côté infiltration ou pas dedans?
Un petit peu, oui, tu fais bien de le... c'est ce que je disais dans le test, c'est que pour moi, c'est vraiment de l'infiltration grand public, quelque part.
D'accord.
C'est très, très simplifié. Ça contribue aussi à l'ambiance générale du jeu, à l'univers. Encore une fois, Bond, ça c'est encore là, c'est présent, mais ça reste très.
C'est gadget. C'est à côté. Oui, c'est pas gadget.
On a ces séquences d'infiltration, mais qui sont pas très compliquées.
D'accord.
Et voilà. Donc on a des petits moments comme ça où on se rapproche d'un Splinter Cell, mais sans vraiment non plus.
Et c'est pas proche pour autant. Je sais pas si tu avais joué à La Mémoire dans la Peau.
Oui, moi ça me faisait penser à ça. Mais même quand j'ai vu les vidéos et tout ça, ça me faisait penser à une espèce de sous-utilisation d'une licence. Un petit peu rapide en espérant que le nom qu'il y a sur la jaquette fera vendre peut-être plus que le jeu.
En revanche, il faut quand même dire qu'on a eu des jeux bien pires que ça à l'époque, à une certaine époque sur cette licence, où vraiment des jeux qui étaient très fades, où vraiment on ne retrouvait même pas l'univers. Là, on a quand même, on a les acteurs qui ont été numérisés, ça marche plutôt bien à ce niveau-là. On sent qu'il y a vraiment un souci de respecter tous les. tous les, bah, les rendez-vous habituels dans
alors,
un film.
Je ne sais pas si c'est aussi bien dans le jeu, hein, je ne l'ai pas joué, mais alors dans la vidéo, j'ai l'impression que le Daniel Craig, enfin, le modélisé, bon, déjà qu'il n'est pas forcément hyper charismatique en vrai,
non, c'est vrai
mais alors
pas...
là, il a le charisme d'une carpe.
Moi, je suis pour un retour de Roger Moore dans le jeu vidéo.
Oui, non,
hein,
ouais,
on ne va pas revenir en salle.
S'il te plaît, Patrick, s'il te plaît, ne partons pas sur la polémique, on arrive à la fin de cette émission.
Ce qui serait bien, c'est de pouvoir choisir son Bond, voilà, que chacun choisit son acteur préféré, voilà, après la skin s'adapte. Donc voilà.
Ah oui, ce serait rigolo, ça remarque.
Ça pourrait être rigolo, tu choisirais, machin. Ah oui. Et donc voilà, ça pourrait être une option. Et moi, non, j'attends toujours un retour de Bond. Moi, je me rappelle d'un très bon jeu, je sais pas si vous aviez connu, ça date déjà de...
Est-ce que vous étiez né?
Operation Stealth. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est un jeu de Delphine Software qui était dans la suite des voyageurs du temps. On était sur du point and click. Et là, vraiment, on se sentait dans la peau du personnage parce qu'on avait sa panoplie de gadgets, etc. Et il fallait savoir les utiliser au bon moment. Il y avait les scènes de discussion. Et, ouais, et voilà, tout ça, moi, c'est très important.
Mais moi, dans un Bond, j'attends aussi justement des scènes de discussion, des dialogues, des choses un petit peu, un côté un petit peu pas jeu de rôle, mais
non, mais voilà,
un petit peu
plus fin. Et ça, on l'a pas du tout là, quoi. C'est vraiment réduit au jeu d'action. Ouais. Donc voilà, honnête, mais bon.
Honnête.
Voilà,
tout juste.
Donc la suite, la semaine prochaine sur GoldenEye qui vient de sortir aussi sur Wii, et on en parlera la semaine prochaine.
Il y a la chanson dans GoldenEye.
Je ne suis pas encore penché dessus.
Tu te prépares psychologiquement.
Exactement.
Je sens bien qu'il te faut un peu de temps. On a fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle auquel vous n'échapperez pas. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi? Allez, je commence. Patrick,
ah bon, ah ben
oui, ah ouais, t'as commencé avec les news, tu
donc,
sais.
Alors oui, moi je vais être rapide. Moi, un film que j'ai bien aimé cette semaine, j'en avais entendu parler, notamment sur écran. Je crois que j'avais lu un article dessus. C'était Buried.
Oh non.
Alors tu l'as vu?
Oui.
C'est ce que tu voulais. Oui. On va en parler ensemble dans ce cas-là. C'est pas grave. Et donc ouais, concept assez osé. Il fallait oser le faire. J'y suis allé plutôt par curiosité. Le concept, c'est un, pour faire très simple, c'est un bonhomme qui se réveille en fait dans un cercueil.
Et qui passe le film dans le cercueil.
Donc je me disais, est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est pas un de ces concepts qui se dégonfle et qui marche pas? Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien et que moi, je suis resté une heure et demie scotché à
Alexandre Hervaux, donc qui a fait la critique.
C'est Alex qui a fait.
Alex a bien aimé aussi.
Ouais, et j'ai trouvé
que
ça marchait
bien. Et toi, alors du coup,
Joël,
t'as
bien aimé aussi?
Non. Enfin, non, je trouve que tu passes une heure et demie. Effectivement, tu passes une heure et demie, tu vois pas le temps passer, bien que tu te trouves dans un espace de 1 mètre sur 2 sans Kinect et tout.
Là, ça serait dur avec
Kinect. Voilà. Mais, je trouve qu'au final, il en reste pas grand chose. Une fois que la fin, on raconte pas la fin.
On raconte pas la fin, évite.
Je trouve qu'il en reste pas grand chose, quoi. Je trouve que c'est un peu beaucoup de poudre aux yeux, quoi.
Ouais, mais je trouvais que le concept était vachement.
Le concept, oui,
Et il le tient, voilà.
Voilà. Mais donc, à part aller voir Buried, j'ai terminé, donc, qui est pas mal, le dernier Stephen King, qui est pas encore sorti en France, qui s'appelle Under the Dome.
Stephen King,
alors, moi, j'ai
un peu décroché depuis un moment.
Ah, non, mais moi, j'étais curieux de voir. Quoi?
Non, mais
je comprends très bien, moi, ça m'intéresse.
Et pourtant,
je suis pas
c'est
fan.
Voilà, un auteur
et je trouve
culte,
ça assez intéressant, quoi. En fait, il raconte l'histoire, c'est un pavé, ça fait 1000 pages, il raconte l'histoire d'une petite communauté qui est placée sous un dôme, qui tout d'un coup, apparaît un jour, il y a un dôme et qui enferme tous les gens à l'intérieur. Bon, voilà, il se passe plein de choses
et
à l'intérieur.
Ça tient la route. Parce que moi, les derniers films que j'ai lus, les fins étaient,
ça tient la route jusqu'à
bon
la fin.
La fin est ratée. C'est un syndrome Stephen King depuis une quinzaine d'années.
Voilà. Et puis, par ailleurs, voilà, je m'occupe aussi du blog de la rédaction de 20 minutes consacrée aux jeux vidéo qui s'appelle le After Party, voilà.
Et qui vient juste d'être lancé.
Voilà, qui était lancé.
Voilà. 20 minutes a donc 20minutes.fr a donc son blog jeux vidéo.
Absolument.
Hélène.
Oui, alors bon.
Pour ton premier, quand vous ne jouez pas, vous faites quoi?
Alors, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais pas grand-chose. Non, je plaisante. Peut-être parler de... Alors, on a beaucoup parlé, hein, mais l'Expo Monet, j'y suis allée. J'ai passé une petite heure.
Qui est tout où?
Hein?
Qui est où, cette Expo Monet?
Au Grand Palais.
Voilà. Non, mais c'est juste...
Pardon,
Au Grand Palais, à Paris.
À Paris.
Au Grand Palais, à Paris.
En France,
En France, sur la Terre.
Non, mais c'est bon. Et donc, elle est bien, donc.
Eh ben, elle est bien. Je suis pas une fanatique non plus d'impressionnisme, mais j'ai trouvé ça très, très chouette. Il y a des tableaux que je ne connaissais absolument pas, en dehors des très connus qui sont présents. Hein. Moi, les meules de foin, ça me touche pas plus que ça. En revanche, c'est très présent dans cette exposition et il y a des tableaux beaucoup moins connus. qui est des tableaux beaucoup moins connus.
Non, Joël.
Comment qui s'appelle Le Dîner, voilà, où ça représente juste tout simplement une famille en train de dîner. Il y a une ambiance, voilà, qui est très présente, qui est très chouette. Je ne connaissais pas ce tableau, c'est, voilà, c'est joli. Et il y a un autre tableau où on voit une femme un peu sur une colline dans le vent que je ne connaissais pas non plus. Et ça m'a fait penser à un dessin animé de Miyazaki, en fait. Voilà, alors je ne sais pas si Miyazaki s'est inspiré de Monet, c'est mais c'est à voir. Je vous la conseille.
D'accord, au Grand Palais, donc.
À Paris, en France, sur la Terre.
Bon, alors moi, quand je ne joue pas, eh ben, je juge. J'ai fait partie, j'ai eu la chance de faire partie du jury des Imagiciens, donc qui est donc un truc qui va avoir lieu à Valenciennes, à Supinfocom, enfin dans le cadre. Plus ou moins, enfin à Valenciennes, début décembre. Et en fait, il y a un prix des Imagiciens sur les projets de jeux vidéo, des écoles de jeux vidéo en France. Évidemment, je ne peux pas vous dévoiler le palmarès ici, qui sera dévoilé, qui sera attribué début décembre.
On est entre nous.
C'est juste pour dire que vraiment, je trouve que le niveau des étudiants en jeux vidéo est vraiment très, très bon. Il y a de très bonnes choses, très bonnes idées. Et en plus maintenant aujourd'hui ils ne sont plus simplement j'avais fait ça là il y a quelques années et il y avait déjà des bons concepts mais la réalisation pêchait un peu, enfin on sentait les idées mais finalement le jeu faisait pas très très envie et là non seulement il y a les concepts mais il y a la réalisation qui va avec, on sent qu'ils commencent à maîtriser les outils
c'est pas lié à la techno qui évolue, non pas du tout, c'est plus
au niveau, il faut quand même la maîtriser, il faut quand même la maîtriser cette techno et il y a vraiment des jeux auxquels j'ai eu vraiment envie de jouer quoi et c'est étonnant de la part de projets étudiants. En tout cas, regardez, tenez-vous au courant.
Il y a moyen de voir ou pas, enfin de voir un petit peu.
Je pense que peut-être sur le site des Imagiciens, ouais, je ne sais pas. Moi, j'en parlerai sur écran.fr. Je ferai la petite sélection parmi les lauréats, en tout cas. Ben voilà, c'est terminé. Merci à tous.
Merci à toi.
Et on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.